verset 12 à 30. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillée des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadée de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que, vous l'apprenez maintenant, je mène encore.
Voilà, je vous invite à la prière. Prions. Merci notre Père pour ta parole, cette parole qui nous conduit vers Jésus, qui nous conduit vers la vie, qui nous donne la vie. Et nous voulons te demander ce matin de nous aider à écouter ta parole. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous parler, de nous donner ta vie, de nous changer. Et rends-nous attentifs, Seigneur, à ce que tu as à nous dire ce matin par ce texte. Au nom de Jésus. Amen. Alors voilà un fan convaincu et passionné du PSG. Alors c'est une photo que j'ai récupérée de la page Facebook d'un membre du conseil. Donc j'ai l'occasion d'avoir ma revanche maintenant. Et oui, cette image est censée représenter un certain monsieur François Rat. Alors si vous êtes fan d'un club de foot, vous vibrez pour cette équipe-là. Et le foot devient pour le fan une passion, une joie. Alors si l'équipe gagne, l'équipe est votre fierté. Mais si l'équipe perd, les pleurs coulent à flot. N'est-ce pas, François? Non? Même pas, non? Alors, pour d'autres, ce n'est pas le foot qui fait vibrer leur cœur. Ça peut être la famille. Mon frère eu la joie d'avoir une petite fille il y a quelques mois. Voici une petite photo, une photo de la petite Théa. La joie de la famille. Pour d'autres, c'est les vacances. Voilà mes copains en vacances il y a 2 ans, en train de prendre une pause, quelque part perdu au fin fond de l'Hongrie. C'est vrai que l'anticipation des vacances, c'est quelque chose qui nous réjouit. Voilà, on va partir en vacances, c'est bien. Alors, l'apôtre Paul, venu parler ce matin de la joie et de la fierté. En quoi trouvons-nous notre joie ? Qu'est-ce qui est gai ? Qu'est-ce qui réjouit votre cœur ? De quoi ou de qui êtes-vous vraiment fier ? Alors, c'est un secret pour personne que la joie et la fierté de Paul se trouvent en Jésus-Christ. En Jésus-Christ lui-même et en sa bonne nouvelle. Et en écrivant ce passage, Paul veut que nous ayons une grande joie et une grande fierté en Jésus et en la proclamation de sa bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous voyez ça au verset 26 ? Donc, si vous avez fermé vos Bibles, je vous invite à les rouvrir. Donc, je crois que c'est la page 770. Verset 26, Paul dit qu'il veut revenir, qu'il veut être auprès des Philippiens pour leur progrès et leur joie dans la foi. Mais en attendant, il a écrit ce message. Alors, la semaine dernière, nous avons vu dans le passage précédent que Paul était dans la joie à cause du partenariat, du partenariat qu'il avait avec des Philippiens, avec les Philippiens, dans la proclamation publique de la bonne nouvelle. Alors, dans notre passage de ce matin, Paul va changer de métaphore. Nous ne sommes plus dans le monde des affaires, des partenariats, des associés, des actionnaires, mais dans le monde du gouvernement. Au verset 27, Paul exhorte les Philippiens en leur disant « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. » Alors derrière ce petit mot « conduisez-vous », nous avons la notion de « conduisez-vous en bon citoyen ». Il y a le mot politique qui est dans ce mot-là. Si vous avez des notes en bas de page dans vos Bibles, vous verrez peut-être ça. Nous sommes dans le monde de la ville, de la République, du Parlement et surtout du citoyen. Alors c'est une métaphore très parlante pour les Philippiens, car la ville de Philippe, on l'a dit la semaine dernière, était une colonie romaine dans le nord de la Grèce. Philippe était comme un petit coin de Grèce et ses citoyens étaient fiers d'être romain. À Philippe, les traditions, les lois, les coutumes, les cultes, notamment le culte de l'empereur, qui était vénéré comme seigneur et sauveur, bah, toutes ces choses venaient directement de Rome, d'où Paul écrit cette lettre. Mais Paul, en utilisant cette métaphore du bon citoyen, le fait de se conduire en bon citoyen, veut que les chrétiens de Philippe soient avant tout de bons citoyens de la République céleste, pour ainsi dire. Au chapitre 3, donc plus loin, donc on va voir ça dans quelques semaines, Paul va parler de droit de cité dans le ciel. Que notre citoyenneté soit en Jésus-Christ, celui qui est le seul Seigneur et seul Sauveur. Alors dans un sens, Paul veut leur montrer quelles sont les valeurs nationales, quelle est l'identité nationale, quelles sont les caractéristiques nationales de cette tribu qu'on appelle les chrétiens. Alors, ce qu'on a entre nos mains, c'est un cours de citoyenneté, en quelque sorte. Paul est venu montrer quel est le comportement qui scie aux chrétiens, la mentalité qu'il faut adopter pour vivre en bon citoyen de cette République céleste. Dans la suite du verset 27, Paul décrit les caractéristiques nationales du citoyen du ciel. Alors, il ne mentionne pas ni la passion des Latins, ni le flegme britannique, ni le sérieux allemand, ni les penchants culinaires des citoyens de l'Hexagone. Mais que dit-il ? Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Alors, les citoyens du ciel ne sont pas passifs, râleurs, défaitistes, individualistes, mais ils luttent ensemble, avec ténacité, pour l'avancement de l'Évangile. Et nous verrons que tout au long de ce passage, il y a une autre caractéristique, et c'est celle de la joie. Le combat chrétien, l'avancement de l'Évangile, ces choses sont étroitement liées à notre joie. Alors, dans cette section de la lettre, Paul va donner quelques nouvelles de sa situation. Il va leur dire comment il va, comment il vit sa détention, son combat, sa lutte. Mais Paul ne parle pas de la pluie et du beau temps, car ces nouvelles sont taillées sur mesure pour les chrétiens de Philippe, pour leurs besoins, pour les aider dans leur contexte à vivre en bon citoyen. Alors, quels sont leurs besoins? Quel est leur contexte? Qu'est-ce que cette église modèle vit? Alors, au verset 29, Paul parle de la souffrance. Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Ils sont en train de connaître le même combat que Paul mène depuis des années. Et c'est pour ça que Paul veut leur parler, dans cette section de cette lettre, de comment lui vit ce combat. Il se propose comme un modèle. Et Paul le fait pour qu'ils sachent comment continuer à combattre côte à côte, dans la joie, pour la vérité de l'Évangile, même dans les moments qui semblent, au premier abord, désespérés. Alors, ce cours de citoyenneté a lieu en trois temps. Sur le polycopier de cours, il y a trois choses. La joie dans l'adversité, la joie face aux attaques personnelles et la joie même face à la mort. Donc la joie dans l'adversité, la joie face aux attaques personnelles et la joie même face à la mort. Commençons avec cette joie dans l'adversité. Peut-on être dans la joie quand tout semble noir, désespéré, quand l'adversité bat son plein? Alors, qu'est-ce que cette image représente? Oh, Michael, c'est un optimiste. Voilà, c'est bien. C'est un verre à moitié plein. Alors, Paul, comme optimiste dans l'histoire, est-il un de ces optimistes qui voit toujours la vie en rose? On verra bien. Nous savons que les Philippiens souffrent de la même manière que Paul. Alors, ils souffrent comment exactement? Alors, c'est Actes chapitre 16 qui nous parle de l'arrivée de Paul pour la première fois à Philippe. C'est suite à cette vision où il a vu un Macédonien qui appelait au secours. Lydie, une marchande de pourpre, s'est convertie en premier. Mais Paul a très vite connu des déboires, des ennuis. Il y avait une jeune esclave qui avait un esprit de divination qui, par ses prédications, procurait un grand profit à ses maîtres. Lassé de ce qu'elle disait à son propos, Paul a fait sortir cet esprit de la fille, donc il a restauré cette fille. Mais les maîtres de cette fille, qui tout à coup ne pouvaient plus faire de l'argent sur le dos de cette fille, ont traîné Paul devant les magistrats de la ville. Et le verset 20 du chapitre 16 des Actes des Apôtres lui raconte leur accusation. Et elle n'a rien à voir avec cette jeune fille. Voilà, je cite. « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs. Ils annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, nous qui sommes Romains. Ils accusent de sédition, de traîtrise. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent un autre Seigneur, un autre Sauveur que César, à qui les citoyens romains doivent tous rendre un culte. Et les Philippiens, les partenaires de Paul dans l'œuvre de l'Évangile, de la proclamation de la bonne nouvelle, connaissent maintenant les mêmes ennuis. Ils annoncent ce même Seigneur. Et ce message d'un Seigneur dérange. C'est-il la même chose pour Jésus, pour Pierre, pour Paul, maintenant pour les Philippiens, plus tard dans l'histoire pour Luther, pour Calvin, pour les Huguenots? Il y avait Marie Durand dans la tour de Constance avec Morte, elle a connu ça. Même le caporal Joseph Taquet au 19e siècle. Donc si vous ne connaissez pas cette histoire-là, demandez à David après. Plus récemment, j'ai vu sur Internet, grâce à Judith, Emmanuel le facteur suisse aussi, viré pour avoir mis son allégeance au Seigneur devant les besoins de la poste fédérale. Ces gens ont tous connu l'opposition ou l'emprisonnement, pour certains la mort, parce qu'ils ont choisi d'obéir en premier lieu le Seigneur, Jésus, plutôt que ceux qui se croient Seigneur. Alors, dans la souffrance, Paul leur écrit du berceau du cœur de l'Empire, de Rome, pour leur dire que dans l'adversité, dans son emprisonnement, l'Évangile n'est pas enchaîné. Au contraire, Paul dit au verset 12, « Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. » Paul est presque fier de ce qui lui arrive. Il avait dit au début de sa lettre aux Romains qu'il voulait leur rendre visite pour prêcher l'Évangile chez eux, mais il n'imaginait pas une seconde qu'il allait prêcher de cette manière-là devant un tel auditoire. Dieu, dans sa souveraineté, l'a conduit au cœur de l'Empire. Il se trouve dans le prétoire, le quartier général de la Légion romaine, le palais du chef de l'armée. Et tout le monde sait qu'il est là à cause du Seigneur qui prêche, à cause de Christ. Paul n'est pas un prisonnier comme les autres, il n'a pas commis un crime sanglant, il n'a pas défraudé quelqu'un d'important. Il est là parce qu'il proclame le message d'un charpentier juif né, mort, ressuscité en Palestine sous l'occupation romaine, qui est à la fois le Seigneur, le roi, le maître, le juge de tout homme et le sauveur de quiconque met sa confiance en lui. Au lieu de bâiller Paul et son message, c'est le résultat contraire qui s'est produit. Son emprisonnement, c'est un formidable coup de publicité. Tout le monde parle de lui et de son Seigneur. Qui l'aurait cru lors de son arrestation à Jérusalem? Et ce revirement de situation a eu pour effet de rendre les chrétiens de Rome encore plus courageux, car ils voient que Dieu est à l'œuvre. Ils annoncent la parole concernant Jésus sans crainte, avec plus d'assurance, et cela réjouit le cœur de l'apôtre. Alors sans doute, les conditions de détention de Paul étaient extrêmement difficiles. Mais étonnamment, Paul est dans la joie, non pas parce qu'il refuse de voir la réalité en face, mais parce que la réalité, c'est que l'Évangile fait des progrès. Le cœur de Paul peut être dans la joie, parce que le cœur de Paul bat au rythme du progrès de l'Évangile. Paul a mis le progrès de l'Évangile au centre de ses aspirations, de ses ambitions. Et du coup, même face à l'adversité, il ne sombre pas dans la déprime ou dans le brouillard du doute pour être en train de lui montrer que le citoyen du ciel met la bonne nouvelle au centre de ses aspirations et de ses ambitions. Nous avons chacun beaucoup d'aspirations, beaucoup de sources de joie. J'en ai cité quelques-unes au début. Ces sources de joie ne sont pas mauvaises. À la juste place, elles sont bonnes et des cadeaux du Seigneur. Mais Paul nous parle d'une joie qui dépasse ces joies éphémères. Il nous parle d'une joie qui ne peut même pas être mise à mal par l'adversité. Et cette joie découle du fait que notre préoccupation première est l'avancement de l'Évangile. Alors l'avancement de l'Évangile, est-il notre source de joie? Ou est-il bien secondaire? Est-il notre préoccupation, notre ambition? C'est une question personnelle, mais aussi c'est une question pour l'Église en tant qu'Église. Il faut que l'avancement de l'Évangile soit l'ambition de l'Église. Il faut que cette préoccupation passe devant celle, je sais pas, du bâtiment ou de notre réputation dans la ville ou nos programmes en semaine et ainsi de suite. Alors Paul est encouragé par ses frères et sœurs à Rome qui annoncent le message du Seigneur avec courage et sincérité. Mais Paul n'est pas dupe. Donc deuxième point, la joie face aux attaques personnelles. Il voit que certains prêchent l'Évangile par rivalité et par jalousie. Alors, au premier abord, ça peut nous sembler assez étonnant. Qui est-ce qui fait ça? C'est quand même difficile de prêcher l'Évangile dans un contexte hostile, mais comment se fait-il qu'ils font ça? Qui sont ces gens? Alors, d'emblée, il faut dire que ces gens ne sont pas des gens qui sont en train de tordre l'Évangile. Ce ne sont pas des faux enseignants. Paul aurait parlé autrement si ça avait été le cas. Paul parle de la jalousie et d'un esprit de rivalité. Alors ça peut nous sembler invraisemblable, mais si nous examinons nos propres cœurs, cela semble du coup beaucoup moins invraisemblable. C'est vrai, on se compare facilement à d'autres personnes ou à d'autres églises. Si une église voisine passe par des moments difficiles, bah de manière perverse, ça peut nous requinquer un tant soit peu. Si un frère, une sœur d'une autre église parle du grand nombre de baptêmes et de conversions, oui, on se réjouit. Mais en moitié, parce qu'on pense, ah oui, chez nous. J'exagère peut-être, mais à peine. Et Paul, parmi les chrétiens, ne fait pas l'unanimité. Sans doute pour certains, son style gênait un peu. Il était si direct, si courageux, si clair. Peut-être qu'ils auraient préféré que Paul mette de l'eau dans son vin, juste de temps en temps. Qu'il parle moins de sujets qui fâchent, qui peuvent braquer les gens ou les mettre mal à l'aise, la colère de Dieu. La réalité de l'enfer, ou les rôles différents des hommes et des femmes dans l'église et dans la famille, ainsi de suite. Et enfin, Paul se trouve en prison. Voilà un signe confirmatoire pour ses détracteurs qui voient qu'il aurait forcé les choses un peu, qu'il aurait mieux faire de se taire de temps en temps. La jalousie, un esprit de rivalité animait leur cœur. Et ils annonçaient l'évangile, cet évangile d'un autre Seigneur et d'un Sauveur, d'une manière qui n'avantageait pas le procès de Paul. Mais Paul n'est pas déstabilisé par ces choses-là, parce que les gens pensent de lui, par sa réputation. Pourquoi ? Parce que sa joie, son cœur, bat au rythme du progrès de l'Évangile. Sa joie, elle est liée à Jésus et à son message salvateur. Il dit qu'importe. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis. Jésus a dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et le trésor de Paul est très clairement l'avancement de l'évangile, le progrès de l'évangile. Il y content, il y dans la joie, quand d'autres entendent la nouvelle d'un Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut se poser la question, où est notre trésor? Pouvons-nous en dire autant? Alors passons à cette dernière partie, la joie, même face à la mort. Dans les versets 18 à 26, Paul pense à son procès. Il est face à la menace de la peine de mort. Et Paul commence en disant, « Je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Alors, ce n'est pas immédiatement clair, mais quand il dit « cela aboutira à mon salut », Paul est en train de citer Job, donc ce personnage juste de l'Ancien Testament, ce personnage qui avait tant souffert, dont les amis pensaient que sa souffrance était liée quelque part à sa transgression. Et Paul est en train de dire qu'il sera blanchi, qu'il sera acquitté, qu'il sera justifié par le Seigneur lui-même, que les événements eux-mêmes montreront qu'il a bien agi, qu'il a été bien fidèle au Seigneur. Alors comment ça? Les prières des Philippiens et l'assistance, l'aide de l'Esprit-Saint vont l'aider à tenir ferme, à annoncer Christ avec courage, en toute franchise, lors de son procès, et qu'il soit mis à mort ou qu'il vive, qu'il soit acquitté par le procureur romain, le Christ sera agrandi, glorifié, magnifié. Paul sait que même sa mort servira à annoncer Christ. Alors, Paul n'est pas masochiste, il ne prend pas plaisir en la mort, loin de là. Mais encore une fois, son trésor, sa joie, son plaisir, toutes ces choses sont liées à Jésus et au progrès de l'Évangile. Alors, mais comment peut-il éprouver autant de joie en cela? Peut-être que vous doutez de son réalisme. Est-ce que Paul exagère un tant soit peu? Est-ce qu'il est réaliste? Alors, je pense que les versets suivants nous donnent la clé. Verset 21. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Pourquoi un gain? Verset 23. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. sa vie est une vie vécue dans le service de son Seigneur, dans le service de son message, sa bonne nouvelle. Et sa mort, bah, c'est d'être dans la présence de son Seigneur. Une ou deux fois, quelques-unes des personnes âgées de l'Église m'ont dit voilà, qu'elles sont prêtes à mourir, prêtes à rencontrer le Seigneur, et qu'elles ont presque envie de ça, de partir. Et je crois que c'est vraiment un beau témoignage de foi, un témoignage auquel l'apôtre Paul souscrit à 100%. C'est le but de la foi, c'est le but de la vie même. L'œuvre de Jésus à la croix, c'était en vue de ce jour-là, de cette réalité bienfaisante, restauratrice, reposante, apaisante, réjouissante, avec Jésus, d'être avec lui, c'est de beaucoup le meilleur. Et je pense que c'est cette espérance qui permet à Paul d'éprouver de la joie, même face à la mort, quelles que soient les circonstances de la vie, et de prendre plaisir en l'avancement de la bonne nouvelle. Le fait qu'un plus grand nombre peuvent entendre le message de la paix avec Dieu. C'est la bonne nouvelle qui lui donne l'assurance de cette réalité à venir. C'est grâce à Jésus, son œuvre à la croix, qui pourra passer l'éternité dans sa présence. C'est grâce à Jésus qu'il échappera à la juste colère de Dieu, à cette peine que ses transgressions, toutes comme les nôtres, méritent. Pourtant, Paul est quand même tiraillé. Non pas que cette espérance n'est pas alléchante, mais parce qu'il aime ceux avec qui il a travaillé dans cette œuvre de l'évangélisation. Les liens fraternels que ce travail crée sont si forts. Et Paul sait qu'ils ont besoin de lui pour être fortifiés, pour avancer dans la foi. Il sait que sa libération, encore faut-il qu'il soit libéré, s'il est libéré, bah, ça serait une source de fierté en Jésus. Parce que les Philippiens vont voir que leur Seigneur est beaucoup plus fort que le Seigneur à Rome, le Seigneur de Rome. Et c'est pour ça que Paul s'attend à ce qu'il soit libéré. Mais face à la mort, Paul ne cherche pas à y échapper. Encore une fois, son cœur bat au rythme du progrès de l'Évangile. Il veut de tout cœur que les Philippiens trouvent leur joie en Jésus, qu'ils mettent la fierté en lui. Et Paul veut que nous fassions de même. Que notre joie, notre fierté, se trouve en Jésus et dans le progrès de sa bonne nouvelle libératrice. Il veut que nos cœurs battent au rythme du progrès de l'Évangile, que nos cœurs s'attachent au Seigneur, que notre trésor soit en lui. Comment ? En fixant nos yeux sur ce jour quand nous serons avec lui pour toujours. C'est de beaucoup le meilleur. C'est ça ce qui nous permet de dire Christ est ma vie et mourir représente un gain. Alors qu'en est-il de nos cœurs ce matin? Où se trouve notre trésor? C'est vrai que nos cœurs sont souvent si partagés. Notre joie en Jésus est parfois fluctuante. Ben, n'oublions pas cette semaine. Prêchons même à nos cœurs cette semaine, où que nous soyons, dans le RER ou dans le bus, à la maison, au bureau, à la fac ou au lycée, peut-être même en Iran du Nord, si le volcan se calme, que nous sommes des citoyens du ciel, des citoyens de Jésus, et qu'un jour nous allons être avec lui pour toute l'éternité, dans sa présence restauratrice. Mais en attendant, et en vertu de cela, c'est notre joie d'annoncer la bonne nouvelle d'un Seigneur qui jugera chacun, mais qui, en vertu de sa miséricorde, sauvera tous ceux qui mettent la confiance en lui. Je vous invite à la prière. Prions.